C'est la BFM sur Bob FM. Bibliothèque francophone multimédia.
Et ce matin, on continue dans les découvertes, bien découvertes lectures, idées lectures de la BFM, toujours avec Laurence de la BFM de Beaubreuil, avec un autre roman qui est « Te tenir la main pendant que tout brûle ». Alors celui-ci, c'est un gros coup de cœur ?
C'est le gros coup de cœur de Clémentine, et on passe à un genre vraiment très différent, un livre un peu plus gros, hein, on passe sur du 350 pages, tout à l'heure c'était moins de 200 pages. C'est un roman policier. Alors, d'une auteure française, elle s'appelle Johanna Gustafsson, mais elle est effectivement française, elle n'est pas des pays du Nord. Et c'est son quatrième roman, donc elle a déjà du chemin derrière elle.
Oui, surtout avec des romans, si les autres font aussi 300 pages, j'imagine qu'on a des histoires qui sont assez bien construites aussi et bien pensées. Alors là, l'histoire ne se passe pas en France.
Et là encore, on voyage. Tout à l'heure, on a fait un petit crochet par l'Algérie. Là, on se situe au Québec, dans le petit village de Lac-Clarence. Je vous laisse regarder pour avoir une idée, voyager vers le Québec. Et ça commence par un meurtre sanglant. Dès le départ, là, je vous spoil rien, on a un homme, Philippe Caron, qui est professeur à l'université d'un certain âge, hein, qui est auteur, donc vous voyez bien installé, et qui est retrouvé mort dans son salon, le torse en charpie, enfin criblé de coups de couteau. Et sa femme est à côté de lui, en état de choc et couverte de sang.
Alors là, déjà, ça pose bien le décor.
Voilà.
C'est un roman policier, alors j'imagine qu'on va voir une enquête, et donc un enquêteur ou une enquêtrice.
C'est cela. On a Maxine Grant, qui est une femme enquêtrice qui est cherchée de découvrir la vérité. Et alors, elle est enquêtrice, c'est son métier. Bon, elle est un peu à côté de la plaque, fatiguée, car elle vient d'avoir un bébé, puis elle a aussi une fille ado, donc avise, pas toujours facile, c'est fatigant à la maison. Mais c'est une femme entièrement dévouée à son métier et qui va essayer de mener l'enquête.
Et comme toute enquête... Alors, très souvent dans les livres, on a soit un enquêteur ou enquêtrice qui est vraiment principale, qui va faire ses investigations, mais des fois, on a aussi une équipe. Là, ça va se passer comment ?
Alors, effectivement, elle a un coéquipier, Jules, qu'elle surnomme Poussin. Ils ont une relation assez marrante, amicale, tous les deux. Et pour moi, il n'y a rien d'ambigu. Après, chacun il verra ce qu'il veut. Et on a aussi la psychologue Gina qui est associée à l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on avait au départ un couple sans aucun problème et l'on retrouve ce carnage.
Donc un trio pour faire l'enquête et donc un cadre qui est posé concernant... En tout cas, on a bien l'image. Évidemment, j'imagine que tout indique que c'est la femme qui a tué le mari, mais que ça ne va pas se passer comme ça.
Alors,
ou peut-être que si.
Je ne vous dis pas tout. Mais Pauline Caron, donc, effectivement, les premières conclusions qui viennent de suite, c'est qu'elle a tué son mari. Même si ça paraît improbable, vu que le couple s'entendait très bien, vu que cette femme était une femme tranquille, dévouée à ce que faisait son mari, elle l'épaulait beaucoup. Et surtout, Maxine la connaît parce que c'est l'institutrice du village. Et donc, elle a vu grandir tous les jeunes qui sont passés par l'école. Donc, Maxine, elle ne croit pas du tout que ça puisse être Pauline qui a tué son mari. Sachant que c'est vraiment un couple de la petite bourgeoisie locale... comme on dit, bien sous tout rapport, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est improbable qu'elle l'ait tué.
Ouais, donc c'est ouais, vraiment, en tout cas dans la tête des personnages, ce n'est pas elle, donc il va falloir chercher plus loin. Pour ça, ils vont faire quoi ? Ils vont fouiller la maison, interroger les voisins ?
Alors sur la scène de crime, comme on voit dans les films ou dans les séries, bien sûr, on relève tout et puis on se met à fouiller. Pour savoir ce qui a pu se passer, est-ce qu'on va trouver des preuves
indices
de quelque chose, voilà, des textes qui montreraient que finalement c'était pas si rose. Et bien mieux que ça, on va trouver des mains coupées, montées sur des socles. Donc les mains, elles sont vieilles, elles sont sèches, elles sont lyophilisées. Et elles sont montées sur des socles, un peu comme des trophées. Donc c'est très étrange. Elles sont pas récentes, hein, ce sont pas les mains du mort.
De vraies mains.
De vraies mains. Donc, qui les a mises ici ? Est-ce qu'il y a une histoire de serial killer? Parce qu'on va en trouver un certain nombre demain. Et l'ennui, c'est que Madame Caron, elle est en état de choc. Vraiment en état de choc. Elle ne peut pas parler. Donc, ils ne peuvent pas mener l'enquête avec son aide parce qu'elle est muette, quoi. Prostrée.
Est-ce que dans ce film, dans ce livre plutôt, on a l'histoire de A à Z d'une manière chronologique ou comment ça va se passer un petit peu concernant ce roman ?
Alors on est un petit peu dérouté à un moment parce qu'après avoir eu cette scène de crime et ces découvertes étranges de mains cachées, pas forcément complètement cachées, mais enfin on va dire dissimulées dans la maison, on passe à un autre chapitre qui nous parle d'une Lina, une jeune fille un peu perdue, rebelle. Mais une jeune fille de 1949. Donc là, on est sur une histoire qui se passe aussi à la Clarence. Et c'est une jeune fille qui est, on va dire, harcelée par les autres adolescents du village. C'est un peu le bouc émissaire, celle à qui on s'en prend tout le temps. Et sa mère n'a pas trop le temps de s'occuper d'elle. Bon, alors on se dit, que vient faire Lina là-dedans, sachant que Madame Caron ne s'appelle pas Lina, donc c'est pas sa jeunesse. C'est... Voilà.
Donc on a cette histoire qui arrive vraiment en 1949, et le seul lien qu'on voit, c'est ce village.
C'est le village. Et autre chose, quelques chapitres plus loin, on a Lucienne. Mais Lucienne, elle est mentionnée en 1899. C'est une femme mariée de la haute bourgeoisie qui vit à Paris. Mais il y a des attaches avec le Québec et elle va vivre un drame familial. Je ne vous en dis pas plus, sinon ça découvrirait trop de choses. Et donc on suit la vie de Lucienne à la belle époque dans le Paris du début du XXe siècle.
Ouais, donc on a...
Étrange.
Ouais, c'est ça. En fait, on a ces histoires qui sont... Alors, en 1899, pour Lucienne, à Paris, avec des voyages au Québec. Lina, en 1949, dans ce village qui est juste le même. Peut-être que tout va être lié à un moment. Et donc, on a ces histoires qui vont être en alternance concernant l'enquête sur le meurtre. Et donc, vraiment, les trois vont être racontées par, je ne sais pas, une narration ou comment ça va se passer ?
C'est vu d'extérieur. Et surtout, c'est qu'on n'a aucun lien, en fait, entre ces chapitres. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, l'enquêtrice Maxine qui tombe sur l'histoire de Lucienne ou sur l'histoire de Lina ou qui se souvient ou quelqu'un lui raconte. Non, c'est vraiment des chapitres séparés. Le premier, c'est désarmant parce qu'on se dit « Tiens, pourquoi on change de personnage ?» Puis on a l'air de changer d'époque. Puis après, on se laisse porter parce qu'on se dit qu'il va bien y avoir un lien. Donc on a trois époques, trois femmes, trois destins. L'auteur brouille les pistes. On s'attache à Lina, la jeune fille de 49 qui est harcelée par les autres, parce qu'effectivement, elle va se lier d'amitié avec une vieille femme. On se demande ce que vient faire cette femme mariée de la haute bourgeoisie, donc Lucienne, celle du début du XXe siècle, mais qui fait des expériences de spiritisme. Donc on s'attache à chacune. Et puis c'est la fin, bien sûr, qui va nous donner le lien qu'il y a entre tout ça, mais je vous laisse le suspense.
Alors j'imagine qu'on a un rythme quand même qui est assez présent dans le livre avec du coup ces chapitres et ces histoires qui sont différentes qui nous donnent envie d'aller toujours plus loin dans le livre.
C'est ça, et en fait les chapitres sont très courts, 5 pages maximum, et au début de chaque chapitre on a la date à laquelle ça se passe, donc on n'est pas perdu sur où est-ce qu'on se situe, chez Lucienne, chez l'enquêtrice, chez Lina, enfin voilà. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui nous renseigne. Et on a ces trois ambiances vraiment différentes qui donnent de la profondeur au roman, qui fait que c'est pas juste un thriller, parce qu'on a cette psychologie de chaque personnage, de chaque femme, en fait, que là encore, on a trois femmes qui sont porteuses. Et on entre effectivement dans leur tête. On sait vraiment ce que chacune pense, ce que chacune ressent. Donc on connaît leurs sentiments, leur désir et leur peur, puisqu'il y a de la peur aussi dans tout ça.
Et donc on a vraiment tous ces personnages qui sont, qui sont attachants et qui restent, vraiment qu'on va suivre. On va autant s'attacher à Maxine que Lucienne, que Lina. On a aussi Jules et Gina, donc les coéquipiers de Maxine, c'est bien ça ?
C'est ça, oui, qui travaillent avec elle. Et en fait, ces trois femmes, c'est vrai qu'on s'y attache. Et moi, j'avais un attachement particulier pour Lina, la jeune fille qui est en pleine crise d'adolescence, parce que Lina, c'est en 49, et on se rend compte que ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, ben, ça a toujours existé et qu'effectivement, elle est le souffre-douleur de tous ses camarades et qu'on a plaisir à l'humilier. Et elle va trouver dans l'amitié avec une femme beaucoup plus âgée la force de résister à tout ça. Cet aspect-là m'a bien plu aussi.
Et le tout va vraiment amener un suspense jusqu'à la fin. Et est-ce qu'à la fin, on se doute un petit peu de ce qui va se passer ?
Mais pas vraiment, parce qu'on est quand même parti d'une histoire de main.
Oui, c'est vrai.
Alors, je ne vous en révèle pas plus, parce qu'à un moment, il y a un indice. Il y a des gens qui, dans une autre époque, des personnes avaient disparu. Je ne vous dis pas dans quelles circonstances non plus. Donc, on se dit, est-ce que les mains ont un rapport ? Mais en même temps, c'est bizarre, parce qu'il y a plus de mains que de personnages qui ont disparu. Donc, c'est vrai qu'on reste quand même dans ce mystère, avec tous ces personnages assez attachants. Et on ne voit pas vraiment venir la fin, non ? C'est à la fois haletant sur ce suspense, mais en même temps, ce n'est pas du tout un roman gore. Hein. Le plus gore, c'est le meurtre du début, on va dire. Et ses mains, mais qui sont lyophilisées, donc ça va, on n'assiste pas au tronçonnage des mains, vous inquiétez pas, ça reste un roman policier.
Oui, voilà, on n'est pas trop dans le détail, mais plutôt voilà. Dans l'histoire de l'enquête.
Des personnages, ouais.
Donc c'est te tenir la main pendant que tout brûle, donc là, on a déjà un petit peu une explication aussi quant au titre. Voilà. C'est signé Johanna Gustafsson.
Et c'est chez Calmant-Lévy Noir, donc collection de romans policiers, chez cet éditeur.
C'est son quatrième roman. Est-ce que tu as pu peut-être lire les précédents ou pas du tout ?
Ouh là là, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'en ai lu aucun de ceux d'avant.
C'est pas grave. En tout cas, ça donne envie aussi de voir un petit peu ce qu'elle a fait avant, donc depuis 2015, où elle peut écrire.
Voilà, elle a déjà écrit Bloc 46 en 2015, Meurt en 2017 et 100 en 2019. Donc ça donne envie effectivement d'aller les découvrir. Donc merci à Clémentine de la BFM de Beaubreuil de nous appâter avec ces histoires.
Donc te tenir la main pendant que tout brûle. Et l'autre livre que tu as pu présenter, c'était Soleil amer. Bah, merci beaucoup Laurence, et puis bonne journée à toi et à bientôt pour de nouvelles idées lecture.
À très bientôt Beau BFM.